99.1.
Le mix.
Écoutez RFI, il est midi en temps universel, 13h à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour à toutes et à tous.
Avec à la une de très fortes explosions entendues ce matin à Téhéran.
Oui, où plusieurs hauts dirigeants iraniens ont marché ce matin en pleine rue aux côtés de manifestants pro-régime à l'occasion d'une journée annuelle de soutien aux Palestiniens. Une sorte de défi lancé à Israël et aux États-Unis. Nous appelons dans un instant notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Un premier mort français dans ce conflit au Moyen-Orient, un chasseur alpin qui a été tué au Kurdistan irakien. 6 autres ont été blessés, dont 3 gravement. Avec Franck Alexandre, on se demandera si cette base d'Erbil où ils étaient stationnés était vraiment sécurisée.
Volodymyr Zelensky est à Paris pour rencontrer le président Emmanuel Macron.
Objectif, démontrer que la guerre au Moyen-Orient ne détourne pas l'attention de l'Ukraine et que le soutien de la France ne faiblit pas. Par contre, pour ce qui est de la poursuite des sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie, la Hongrie et la Slovaquie ont encore bloqué ce matin une éventuelle décision, nous dira Pierre Benazet. Et puis en France, dernier jour de campagne avant le premier tour des municipales dimanche, Victorien Villaume nous expliquera les nouvelles règles de vote pour les 3 plus grandes villes du pays, Paris, Lyon et Marseille.
Cela fait 2 semaines maintenant que la guerre fait rage au Moyen-Orient.
Oui, ce matin, des explosions massives ont été entendues dans le centre de Téhéran, selon la télévision d'État. Siavosh Ghazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Téhéran. Ces frappes ont eu lieu au moment d'une manifestation de soutien au pouvoir dans les rues de la capitale iranienne.
Absolument. Tout d'abord, d'après ce que j'ai pu savoir, tous les responsables iraniens en dehors du guide suprême, de nouveau guide suprême, était présent à cette manifestation. Le président Pezeshkian, Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la Sécurité nationale, le chef du pouvoir judiciaire, le chef de la police nationale, le ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables ont participé à cette manifestation. Donc une première apparition depuis 14 jours. Donc on tourne une page, alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des messages vidéo qui étaient diffusés, des messages vidéo enregistrés qui étaient diffusés par la télévision d'État ou des messages écrits. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que en fait, lorsque vers 10h15, ce cortège se formait, se dirigeait vers la place Emgalab, dans le centre de la capitale iranienne, il y a eu 5 ou 6 frappes israéliennes des deux côtés de ce cortège, un peu plus loin. Donc pour une manière de pousser les manifestants à se disperser et de ne pas rester sur place. Et on pense que c'était une attaque délibérée pour disperser la manifestation. Et là, réaction des manifestants, ils ont lancé des slogans « Mort à l'Amérique, mort à Israël » et aussi « Allah Akbar » et ont continué leur chemin donc pour aller sur cette place Emgalab et faire la prière collective à l'université de Téhéran. Et là, vers midi, une nouvelle frappe est intervenue donc sur la place Emgalab qui a tué un des manifestants, et donc une manière pour Israël de mettre en garde des partisans du pouvoir qui étaient dans la rue. Mais Ali Larijani, qui est la figure montante du pouvoir, a affirmé que Israël frappait les civils et cette manifestation par faiblesse et non pas en position de force, et que frapper les civils, c'était une preuve de faiblesse côté israélien.
Israël avait aussi appelé à une évacuation de 2 quartiers du centre de Téhéran en prévision des frappes. Siavosh, de quel quartier s'agit-il ?
Alors ça, c'est pour cet après-midi, apparemment. 2 quartiers, un quartier dans le centre de Téhéran et un autre un peu plus au sud. 2 quartiers très populaires. Le quartier de Villa, où il y a la plus ancienne et la plus grande église arménienne donc de Téhéran qui se trouve dans ce quartier. ce sont un quartier résidentiel avec des immeubles ou des maisons qui datent d'il y a 50 ans, 70 ans, donc très fragiles. Et puis l'autre quartier, le quartier qui a été visé, c'est un quartier encore plus ancien parce que là, les maisons datent d'il y a 80 ans ou 100 ans même, avec des petites ruelles et une concentration de la population très importante. Donc, s'il y a des frappes sur ces quartiers-là, on est certain qu'il y aura encore plus de victimes civiles, des morts et des blessés.
Merci, Siavosh Gazi, en direct de Téhéran. L'armée israélienne poursuit aussi ses bombardements sur le Liban. Ce matin, elle a lancé une série de frappes dans plusieurs régions, dont une a détruit un pont sur le fleuve Litani dans le sud. Pont utilisé, selon Israël, par les combattants du Hezbollah. Ces frappes sont quotidiennes. Mercredi, dans la plaine de la Beka, un des fiefs du Hezbollah dans l'Est, une de ces frappes avait touché un camp de réfugiés syriens en tuant 8. Écoutez le reportage de notre envoyé spécial, Abla Jounaïdi.
Il égrène les noms des morts, ceux de sa famille fauchés non loin d'ici, de l'hôpital Raya. Mohamed, 16 ans, a perdu 4 frères et sœurs. En une fraction de seconde, il est aussi devenu orphelin lorsqu'une frappe israélienne a touché au matin l'appartement où logeait cette famille de réfugiés syriens.
Mon père et ma mère sont morts. Un avion a survolé notre immeuble. On dormait, il a frappé l'entrepôt juste à côté. Mon frère et ses 2 enfants sont morts aussi. Et on s'est retrouvés là. C'est tout ce dont je me souviens.
Blessé de guerre, c'est l'État libanais qui prendra en charge son opération à la tête, précise la direction de l'hôpital. Le docteur Ali Abdallah a accueilli de très nombreux blessés comme Mohamed ces derniers mois.
On n'a aucun armé, aucun patient qui participent à une part militaire, si on peut dire. C'est juste des gens blessés, brûlés. Vous pouvez les voir dans tous les... Même les morts, c'est pareil. C'est des gens qui n'interfèrent pas à cette guerre, qui ne savent rien, mais ils sont blessés à cause de je ne sais pas quoi.
Un des fiefs du Hezbollah, comme le sud du Liban et la banlieue sud de Beyrouth, la Beka, continuait ce jeudi de voir les avions et drones voler à basse altitude, avec pour chacun la crainte à tout moment d'en devenir la cible mortelle.
Un reportage de notre envoyé spécial au Liban, Abla Jounaïdi.
Et cette nuit, Christophe, on a appris la mort d'un premier Français dans cette guerre.
Oui, un chasseur alpin tué lors d'une attaque de drones iraniens dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, c'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron, qui précise qu'en tout, 6 Français ont été aussi blessés. Et parallèlement à cette annonce, ce matin, le groupe armé pro-iranien Ashrab el-Kaf annonce qu'il a décidé de prendre pour cible les intérêts français dans la région. Dans ce contexte, évidemment, une question se pose, la base militaire française d'Erbil était-elle suffisamment protégée? Franck Alexandre.
Sur la base militaire d'Erbil au Kurdistan irakien, le détachement français n'est pas très étoffé. Quelques dizaines d'hommes dédiés à la formation dans le cadre d'une coalition anti-djihadiste. Néanmoins, toute base sur un théâtre d'opération potentiellement dangereux doit être protégée et disposer de systèmes d'alerte. L'effet de surprise n'est pas permis, rappelle Jean-Marc Tanguy d'Air et Cosmos.
S'ils ont été surpris, c'est qu'ils n'ont pas eu d'alerte. S'il n'y a pas eu d'alerte, dans ce cas-là, c'est qu'il y a une forme de déficit. S'ils ont eu l'alerte, mais qu'ils n'ont pas pu se protéger, c'est pas mieux non plus. Ça, c'est pour la partie détection et protection immédiate. Ensuite, pour se protéger d'une menace, on peut l'intercepter avant qu'elle arrive jusqu'à vous. Et là, manifestement, la France n'a pas déployé, et apparemment les alliés non plus, d'instruments qui permettent de faire ça. Quel type d'instrument? Ben, ça peut être des missiles solaires, ça peut être un avion ou un hélicoptère. Le problème du Shahed, c'est qu'il peut voler très haut et piquer subitement. Et c'est vrai que c'est un mode d'action qui n'est pas forcément adapté à tous les moyens d'interception qu'on peut avoir, pour autant qu'on les ait.
Alors qu'Emmanuel Macron a insisté ces derniers jours sur le rôle défensif de la France dans la guerre au Moyen-Orient, la question se pose, à Erbil, y a-t-il eu un trou dans la raquette?
Franck Alexandre, et sur les 6 Français blessés, 3 l'ont été gravement, leur état a été stabilisé, ils doivent être évacués vers la France dans la journée.
Sur le front économique, les bourses sont à nouveau à la baisse.
Oui, les bourses asiatiques ont fermé dans le rouge, moins 1,16 pour le Nikkei à Tokyo, moins 1,72 pour l'indice de référence à Séoul. Même chose pour les bourses européennes qui ouvrent, elles, à la baisse. À Paris, le CAC 40 a, dès l'ouverture, baissé de 1,22%. Pourtant, après avoir bondi de 10% hier, le prix du pétrole s'était stabilisé autour de 100 dollars, alors que Washington a annoncé l'autorisation temporaire de la vente de pétrole russe stocké sur des navires.
Le président ukrainien, lui, est à Paris. Il doit rencontrer Emmanuel Macron.
Pour, explique l'Élysée, démontrer que la guerre au Moyen-Orient ne détournera pas l'attention de l'Ukraine et que la Russie se trompe si elle croit le contraire. Et le soutien de la France, un partenaire fiable, ne faiblira pas, a insisté un conseiller du président français. C'est la 12e visite du président ukrainien en France depuis le début de l'invasion russe il y a 4 ans. L'attention à la guerre en Ukraine ne faiblit pas, affirme la France. Pour ce qui est des sanctions vis-à-vis de la Russie, ce n'est pas la même chose. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Bruxelles. Ce matin, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la poursuite des sanctions à l'encontre de la Russie. Et une fois encore, ce sont la Slovaquie et la Hongrie qui bloque.
Oui, et c'est d'autant plus urgent parce que les 19 trains de sanctions décidés depuis février 2026 doivent être renouvelés tous les 6 mois à l'unanimité pour pouvoir rester en vigueur. L'échéance approche, c'est en théorie pour ce dimanche, le 15 mars, que la prolongation doit être actée. Or, ces sanctions représentent la pierre angulaire du soutien européen à l'Ukraine et leur efficacité est d'ailleurs prouvée par les multiples tentatives du Kremlin pour essayer d'obtenir leur levée. La Hongrie, épaulée par la Slovaquie, continue son chantage pétrolier. Elle prend ses sanctions en otage dans le but d'imposer à l'Ukraine la réouverture de l'oléoduc Droujba, endommagé en janvier par une frappe russe. Dans ce contexte, la décision ce jeudi des États-Unis d'assouplir unilatéralement leurs sanctions pétrolières contre la Russie a sûrement enhardi la Hongrie, alors que cette décision américaine est dénoncée par le chancelier allemand et le président du Conseil européen.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Union européenne toujours, elle a prévenu qu'elle réagirait avec fermeté à toute violation par les États-Unis de leur accord commercial conclu l'été dernier. Car Washington lance de nouvelles enquêtes commerciales pour vérifier d'éventuels manquements à la lutte contre le travail forcé. Des manquements qui pourraient justifier de nouveaux droits de douane. Une 60aine de pays sont visés, dont ceux justement de l'Union européenne, mais aussi le Japon et la Chine. Et si l'administration Trump est en train de travailler à la mise en place de nouveaux droits de douane, c'est parce que le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis avait annulé une grande partie des taxes déjà imposées par Washington et Donald Trump. Finalement, c'est non. La justice brésilienne, 2 jours après l'avoir autorisée, interdit finalement qu'un conseiller du président américain se rende visite à Jair Bolsonaro, l'ex-chef d'État d'extrême droite. La Cour suprême parle d'une possible ingérence étrangère. Jair Bolsonaro, qui vient d'être hospitalisé après un malaise en prison, c'est ce qu'a annoncé un de ses fils. Jair Bolsonaro, qui a de lourds problèmes de santé depuis la tentative d'assassinat qu'il avait visée il y a plusieurs années. Au Chili, le nouveau président d'extrême droite, lui aussi, José Antonio Kast, a annoncé qu'il allait gracier des policiers et des militaires qui avaient été condamnés pour la répression des manifestations en 2019, répression qui avait fait 30 morts. Aujourd'hui, le président affirme que chaque cas était étudié. Pendant sa campagne, il avait dit qu'il libérerait tous les condamnés. En France, c'est aujourd'hui le dernier jour de campagne avant le premier tour des municipales ce dimanche. Hier à Paris, les deux principaux candidats, Rachida Dati pour LR et le Modem et Emmanuel Grégoire pour la gauche hors LFI, se sont affrontés par meeting interposé. Rachida Dati a appelé à résister contre une gauche radicale. Emmanuel Grégoire exhortant de son côté à résister contre l'alliance de la droite et de l'extrême droite. En tout cas, ce dimanche, dans l'ensemble de la France, ce sont près de 49 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour désigner certes les maires, mais aussi les conseillers municipaux d'environ 35 000 communes. Victorin Vium, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de ces nouvelles règles qui concernent les 3 plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille.
Oui, les électeurs de ces 3 villes, les 3 villes les plus peuplées de France, vont devoir se concentrer un peu, Christophe, dans l'isoloir, puisque depuis 40 ans, on ne votait pas directement pour le maire comme ailleurs en France. Les électeurs votaient par arrondissement et ses élus formaient ensuite le conseil municipal qui élisait le maire. À partir de maintenant, nouveau système qui instaure le suffrage universel direct. À Paris et Marseille, les habitants vont voter 2 fois. Un vote pour élire les conseillers d'arrondissement, un second vote pour les conseillers municipaux qui, eux, éliront directement le futur maire. À Lyon, attention, il faudra glisser carrément 3 bulletins dans l'urne, puisqu'il y aura également celui pour la métropole. Les opposants à cette réforme dite PLM Paris-Lyon-Marseille estiment que c'est la droite qui est avantagée par ce nouveau mode de scrutin. La réponse, on l'aura dans 2 jours, Christophe.
C'est noté, merci Victorin Guillaume. En France toujours, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, vous le savez, est revenu d'Algérie où il était emprisonné. Et on vient d'apprendre qu'il quittait sa maison d'édition historique Gallimard pour rejoindre la concurrence, à savoir Grasset. Grasset qui appartient au groupe Lagardère, lui-même contrôlé par Vincent Bolloré, milliardaire proche de l'extrême droite. Alors que Gallimard s'était mobilisé pour obtenir la libération de l'écrivain dont l'emprisonnement avait duré près d'1 an en Algérie. Olivier Roger.
Dans le milieu de l'édition, les transferts d'écrivains sont aussi courants que dans le football, bien que moins médiatisés. Mais le cas Boualem Sansal revêt une dimension qui va bien au-delà d'un simple changement d'enseigne. Le transfert surprise de l'écrivain franco-algérien dans une maison du groupe Lagardère, Grasset, traduit la puissance économique de Lagardère, qui compte plus de 200 marques d'édition. Elle revêt aussi une dimension idéologique. Contrôlée par le milliardaire proche de l'extrême droite Vincent Bolloré, le groupe voit chacune de ses décisions d'édition scrutée par le milieu parisien pour y déceler d'éventuelles dérives vers l'extrême droite. Boualem Sansal étant réputé de droite, son arrivée chez Grasset est donc vue par certains comme un signal politique. Arnaud Lagardère a jugé nécessaire de s'en défendre, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un choix littéraire et que l'écrivain éprouvait le besoin de changer de vie. Reste que chez Gallimard, la pilule passe mal. Antoine Gallimard s'est dit triste et déçu. Gallimard avait soutenu l'écrivain lorsqu'il dormait dans les geôles algériennes, mobilisant notamment un imposant comité de soutien en sa faveur.
Olivier Roger. Enfin, le prix Découverte a été dévoilé hier soir. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne ou vu sur les réseaux sociaux. C'est le Béninois Opa qui remporte cette 44e édition.
Oui, Opa qui mêle à l'afrobeat des sons béninois. Opa qui remporte donc 10 000 euros pour le développement de sa carrière internationale, un concert retransmis sur RFI et une tournée dans les instituts français en Afrique. Il sera aujourd'hui l'invité de BPM Bonne Pulsation du Monde à 15h10, temps universel. Il sera aussi dans l'Afro Club de Luxe à 20h10, temps universel toujours. Autant d'informations à retrouver évidemment sur RFI Musique. RFI 13h15 à Paris, c'est la suite de RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Christophe Paget pour le journal. 13h15 à Paris, ça veut dire qu'il est l'heure de parler de sport ? Et notamment de football. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Anne.
Après la parenthèse Coupe d'Europe, la Ligue 1 reprend ses droits.
Venez donc mon cher ami.
Le mix de toutes les cultures.
Soyez pas timide.
99.1 FM.
99.1 FM.
Just like my wine, ain't nothing but juice. You can turn me on, you can turn me loose. I'm a little bit of fine, with a whole lot of twine. Corn toss, flip it up, heads or tails. Which side am I? I never tell. Corn toss, flip it up, spinning around. If you catch me, Maceo. Want you to buffo. We start on one, I never tell. Corn toss in the air, spinning around. If you catch me, putting me down. I'm looking at you and I like what I see. Yeah.
Don't be confused, you do what you do.
What you do, yeah. Do the duty, you think best. Leave them to me and all the rest. I'm a little bit of fun with a whole lot of twine.
Guantanamera,
Ave María Purísima.
Guantanamera.
acá las mujeres y un buen son para inspirar. Por eso nací poeta, por eso canto orgulloso a este pueblo bondadoso que me quiere y me respeta. A ustedes les debo todo lo que fui y lo que soy, lo que seré, yo lo ignoro, por eso cantando estoy. Sepan toditos ustedes que son mi gran alegría y en mi canto siempre imploro por toda la gente mía. Cantaremos todos juntos, unidos de corazón, esta rica guajirita.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer cette nouvelle émission intitulée Repartons. Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent.
Aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet consacré à la Maison de la Recherche en Santé Mentale. Dans le premier épisode, j'ai eu l'honneur d'interviewer Lydie Doré, directrice des recherches, et Héloïse Yang, pédopsychiatre. Nous avions parlé de la santé mentale des enfants et des adolescents, des réalités parfois difficiles mais essentielles à aborder. Pour ce deuxième temps, je suis allée à la rencontre de Romain Taton, docteur en psychologie et neuropsychologue, également chercheur au sein de cette nouvelle structure. Avec lui, nous avons exploré les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou le TDAH, des sujets qui suscitent beaucoup de questions, parfois des inquiétudes, et qui méritent d'être expliqués avec clarté. Avant d'entrer dans le détail de ces troubles, j'ai souhaité repartir des bases. Donc, docteur Taton, dites-nous, qu'est-ce que la neuropsychologie ?
La neuropsychologie, c'est une des dimensions qui va plutôt s'axer sur les mécanismes cérébraux qui placent le cerveau un petit peu au cœur du fonctionnement de l'individu. Et les neuropsychologues travaillent sur des outils psychométriques et sont identifiés pour utiliser des outils techniques qui permettent de comparer le fonctionnement individuel à des grandes cohortes, des statistiques plus générales pour identifier et mieux comprendre le fonctionnement de l'individu à travers le fonctionnement de son cerveau. Voulant très rapidement me spécialiser dans l'autisme et dans le handicap, qui va aller chercher les approches qui sont recommandées, qui vont être identifiées par la recherche comme étant les plus pertinentes pour ce public-là. Ce qui m'a amené à me former dans les approches développementales, dans les approches cognitives, dans les approches comportementales. Je me suis très vite intéressé au handicap. J'ai été amené à rencontrer des personnes avec autisme, ce qui m'a intéressé de mieux comprendre, pour mieux les aider, mieux accompagner ces personnes, leurs familles, leurs parents. On estimait qu'il n'y avait pas plus de personnes qui avaient de l'autisme, par exemple. Il n'y en avait pas tant plus qu'on était meilleur à les identifier, à les repérer, notamment des formes qui pouvaient être plus à la marge, qui peut-être il y a 30 ans n'auraient pas amené un diagnostic, alors qu'aujourd'hui, notre connaissance des troubles font qu'on est plus à même d'identifier les besoins de ces personnes-là. Donc, factuellement, il y en a plus. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on met en évidence qu'il y a de plus en plus de personnes qui présentent ces difficultés-là. Et on identifie l'autisme comme un trouble plurigénétique multifactoriel. Pour évoquer plurigénétique, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs gènes qui seraient concernés, en fait, on n'a pas un gène, on n'a pas des centaines de gènes, on a des milliers de gènes qui sont potentiellement concernés et impliqués. Et de plus en plus, on met en évidence que des personnes pour lesquelles on confirme un diagnostic de TSA, nous, cliniquement, quand on va ensuite aller regarder au niveau génétique, on va observer plein de gènes qui sont mutés. Mais ce n'est pas systématique. Et il y a aussi des personnes qui ont ces mutations génétiques, mais qui n'ont pas de TSA. Donc c'est plurigénétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions qui rentrent en compte. Certains des gènes sont plus forts que d'autres. Certains, s'ils sont mutés, il y a plus de chances qu'il y ait de l'autisme. Une des questions souvent que les familles nous posent, c'est de se dire, mais alors, si c'est génétique, est-ce que c'est moi qui ai transmis ? Alors, il y a des gènes qui peuvent être transmis, effectivement, c'est pour ça qu'on peut retrouver des familles dans lesquelles il peut y avoir des prédispositions, mais on a aussi des gènes qui sont des mutations dites de novo, c'est-à-dire que c'est au moment de la fondation de l'individu que, pouf, la mutation apparaît. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir les mutations génétiques, mais que ça ne s'exprime pas au niveau de l'évolution de l'individu. Plurigénétique, je disais tout à l'heure, multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui rentrent en compte et qui peuvent augmenter la prévalence du TSA. Le fait que la mère, pendant la grossesse, soit exposée à des dimensions de l'environnement, vont jouer un rôle en prévenant parfois de l'autisme, en augmentant le risque que survienne une forme d'autisme. Certaines dimensions sont connues. Certaines dimensions, on a cru que, on a fait des études, on a montré que non. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas d'impact. Les vaccins, pas d'impact. Le fait d'avoir un vaccin n'augmente pas la prévalence de l'autisme chez l'enfant. L'éducation des parents, pas d'impact. Ça, c'est très important aussi de souligner, parce que longtemps, on a cru qu'il y avait un rôle de la posture parentale. Donc aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est balayé, c'est vraiment plus du tout d'actualité. Une des plus essentielles, les pesticides. L'exposition aux polluants, les pesticides, aujourd'hui, c'est véritablement une des dimensions qui, dans la littérature, est marquée comme ayant un rôle très important. On peut avoir des publications plus récentes, par exemple, qui soulignent que le fait d'habiter, selon l'étage dans lequel vous habitez en ville, l'exposition aux pots d'échappement, par exemple, peuvent jouer un rôle. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes une femme enceinte, vous êtes exposée aux pesticides, boum, votre enfant sera TSA, ça ne marche pas comme ça. Mais ça augmente la probabilité, ça augmente les risques. Et cette dimension-là, elle est bien identifiée, on sait, on a bien montré en superposant des cartes sur lesquelles on voit les zones d'épandage, et on voit bien le parallèle des cartes entre la zone d'épandage et l'augmentation du trouble du neurodéveloppement chez les enfants. Quand on a une école maternelle et qu'à côté on a un champ de vigne, quand on va répandre les produits, la probabilité que les enfants soient exposés à des étapes très précoces de leur développement, c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Et pour mieux connaître ça, par exemple, la cohorte Marianne, qui est une démarche nationale, là on va étudier chez des familles qui ont déjà un enfant avec autisme et qui ont un projet d'enfant. Il va y avoir des questionnaires, des petits prélèvements pour la maman pendant la grossesse, des prélèvements au moment de l'accouchement. Et en fait, on va suivre les bébés par la suite. Moi, dans ce cadre-là, je rencontre des bébés régulièrement, de 0 à 6 ans. C'est une étude qui est lancée depuis très peu de temps, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et on va, pendant 10 ans, continuer à suivre des bébés comme ça. Les bébés, on va les évaluer régulièrement. On va leur proposer des évaluations cognitives, des évaluations neuropsychologiques, des démarches de ce type. Et on va aussi chercher à regarder avec des prélèvements d'ongles, de cheveux, de sang à des étapes de la vie, notamment pour l'enfant tout petit, pour essayer de voir si on retrouve ce type d'éléments, type pesticides et autres polluants qui peuvent être connus pour voir est-ce que, à terme, quand on aura suivi tous ces enfants de la cohorte, est-ce que parmi ces enfants où éventuellement on aura mis en évidence la survenue d'un autisme, aux âges où c'est adapté, est-ce que quand on va regarder les premières étapes du développement lorsqu'ils étaient bébés, ils étaient exposés à plus de polluants, moins de polluants, plus de facteurs, moins de facteurs, plus de difficultés. Et toutes ces dimensions-là sont croisées de manière à essayer de faire du lien et de comprendre, de mieux comprendre comment les choses se développent. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir, dans la recherche, est-ce qu'on étudie la nature du trouble, la cause du trouble, le développement du trouble, l'origine du trouble? Eh bien, en fait, la totalité est impliquée, puisque quand on se focalise sur une des dimensions, on ne peut pas faire l'économie des autres. Donc, on est obligé de mesurer l'ensemble, d'aller à un moment poser la question de voir comment fonctionnent les gènes et est-ce qu'il y a des gènes mutés chez ces enfants-là, pour lesquels, en parallèle, on met en évidence certains types de difficultés. Et c'est ça qui va être intéressant, et c'est l'ensemble, en fait, qui va permettre de mieux comprendre l'évolution des individus pour mieux les accompagner. Parce que les accompagner, eux, ça passe aussi par l'accompagnement des familles, de leurs parents et de leur environnement au sens large, les professionnels qu'ils accompagnent, les autres camarades. Il est fréquent d'avoir des enfants, des adolescents avec autisme ou troubles du neurodéveloppement plus généralement, qui nous interpellent sur ces questions-là. Le fait de proposer des sensibilisations, d'expliquer aux autres enfants ce qu'est l'autisme, ce qu'est le trouble du neurodéveloppement, et bien c'est une dimension qui va être très importante. Et pour finir, sur la prévalence, donc, elle augmente un petit peu. Aujourd'hui, la prévalence de l'autisme en France, elle est identifiée à 1 à 2%, là où les troubles du neurodéveloppement, au sens large, dans lequel on va retrouver le trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait auparavant la déficience intellectuelle, donc elle est ici. Les troubles scolaires sont là aussi, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Le TDAH, dont vous parlez tout à l'heure, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous ces éléments-là appartiennent aux troubles du neurodéveloppement. Ça représente 10 à 15% de la population, des enfants. Donc c'est pas du tout négligeable.
Le neuropsychologue étudie le cerveau pour mieux comprendre chaque personne grâce à des tests comparant ses capacités à la population générale. Aujourd'hui, l'autisme touche 1 à 2% des Français, en hausse à cause d'un meilleur dépistage de